BFM Business et CB News présentent Hebdo.com avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans Hebdo.com sur BFM Business. Aujourd'hui, on sera avec le patron de My Media, groupe de conseil en achat d'espaces publicitaires, dont LBO France vient de prendre une participation majoritaire. On s'intéressera à la transformation digitale des entreprises. On sera avec Sandrine Catla, directrice des études de l'Observatoire Netexplo, et David Leborgne, Chief Digital Officer du groupe SNCF. Et puis en fin d'émission, rencontre avec la créatrice de lunettes Nathalie Blanc. Hebdo.com, ça commence tout de suite avec les news de Marie Vallogne.
BFM Business, Hebdo.com, les news.
À l'occasion de la Coupe du Monde de football, Nike met à l'honneur Kylian Mbappé sur sa dernière affiche publicitaire. Une affiche avec une photo du joueur accompagnée de sept mentions. 98 a été une grande année pour le football français. Kylian est né. La marque joue l'ambiguïté sur l'année 1998, date de naissance de l'attaquant français, mais surtout date du sacre de l'équipe de France en Coupe du Monde. La publicité est à découvrir sur la façade du Stade de France, là où la France a remporté le titre il y a 20 ans. Un autre équipementier, l'allemand Adidas, a préféré miser sur le casting pour sa pub spéciale Coupe du Monde, avec des joueurs stars du football actuel comme Paul Pogba, mais aussi des anciens comme David Beckham, Zinedine Zidane. La marque s'offre même le rappeur Pharrell Williams qui clôture le clip. 56 personnalités mises en scène pendant 1 minute 30 à l'occasion de la compétition en Russie. La marque de chips Pringles a misé sur l'humour avec Ramsay. L'acteur et humoriste incarne un créateur de célébration de buts. Et pour la Coupe du Monde, il lance la Pringles Academy pour dénicher la nouvelle star de la célébration. Franck Leboeuf passe le casting, mais son imitation de Lilian Thuram à genoux et index sur la bouche ne convainc pas. Les internautes sont invités à envoyer leur façon de célébrer un but. La campagne est signée Monster. Belin et Tuc présentent Gilles dans leur nouvelle publicité. Gilles, c'est le nouveau coach apéro de l'équipe de France. Présentation lors d'une conférence de presse.
Bonjour, bonjour à tous. Alors d'abord, je tiens à vous dire que je suis très heureux d'intégrer les Bleus. Hein, c'est un rêve pour moi qui devient réalité.
Oui. Vous êtes qui ?
Moi, je suis Gilles, le nouveau coach. Enfin, non, le coach, ça reste Didier, évidemment. Moi, je suis le coach, ce qu'on appelle le coach apéro. Hein, coach pour la cohésion, la convivialité, l'esprit festif. Hein, les Espagnols, pourquoi ils gagnent ? À votre avis, les tapas.
La publicité se décline en trois films signés par l'agence Brand Station.
BFM Business, Hebdo.com, l'invité.
Comme toutes les semaines, on retrouve Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Aurélie.
Alors notre invité cette semaine, c'est Anthony Ravo, président fondateur de My Media. My Media Group, groupe français indépendant de conseil en achat d'espace. Vous venez d'être racheté par LBO France. Pourquoi vous n'arriviez pas à faire votre développement tout seul?
Alors, c'est pas exactement un rachat. Alors, bonjour. C'est pas exactement un rachat.
Prise de participation majoritaire, de participation, ça y ressemble fortement quand même.
Oui, enfin, c'est la vocation des fonds, en fait, d'investissement. Hein. Ils prennent des participations et ils n'ont pas vocation à contrôler réellement la société. L'idée, c'est de placer de l'argent et d'en sortir de la société avec les dirigeants qui sont aux commandes entre 3 et 5 ans. Donc, ils ont cru à notre modèle, ils ont cru à notre potentiel de croissance et nous avons fait venir en tant que partenaire financier, donc associé, afin d'assurer le développement de la société. Donc on a aujourd'hui un partenaire financier qui va nous aider vraiment à accélérer, notamment sur la partie croissance externe. Et quel partenaire, puisque LBO France est un fonds qui est extrêmement prestigieux, créé dans les années 80, au début des années 80, et qui a accompagné énormément de sociétés, et surtout d'entrepreneurs dans leur développement, et notamment dans des problématiques de build-up. Donc aujourd'hui, leur vocation, c'est pas de racheter des sociétés et de créer un groupe. Hein. Leur vocation, c'est d'aider des sociétés à se développer de manière rapide dans des logiques de croissance organique et des logiques de croissance externe.
Mais pourtant, il y a 2 ans et demi, vous aviez vous-même levé des fonds pour reprendre le contrôle total de My Media Group. Si je me trompe,
oui,
vous avez fait un vrai virage là.
Bah en fait, en 2013, on a fait notre première LBO, donc on a fait rentrer Zeta Conseil, qui avait pris à l'époque déjà une participation majoritaire dans le groupe. Et puis, entre-temps, on a doublé la taille de l'entreprise. Donc, on a proposé donc à Zeta de racheter sa participation, ce qu'il a accepté, pour reprendre notre indépendance. pour faire des acquisitions. Et puis là, on refait venir un fonds pour passer à la vitesse supérieure parce qu'on a besoin, quoi qu'il se passe dans ces métiers, on a quand même besoin, si on veut franchir des étapes, des grosses marches, on a besoin de partenaires financiers, on a besoin des banques, on a besoin des fonds. Et voilà. Donc là, la logique, elle reste exactement la même. Sauf qu'on est un peu plus gros, très clairement, que nos ambitions restent intactes. Hein. On veut être un acteur référent dans le conseil d'achat d'espace et de manière plus générale dans la stratégie des moyens. Et l'idée, c'est de se développer en France et à l'international.
Alors, MyMedia, c'est une jeune et indépendante agence média dans un monde où il y a des géants, quoi, ouais. Des groupes mondiaux qui font des deals considérables. C'est quoi le secret et justement la méthode dont vous parliez de MyMedia pour exister et croître dans cet univers?
Alors, quand on a créé cette société avec David Ringrave. J'étais annonceur donc dans le monde des télécoms, chez Neuf Télécom, et le constat qu'on a fait c'est que les agences médias en présence avaient une approche très décorrélée de la performance. Donc on recommandait des stratégies médias, on les implémentait, puis on priait pour que ça marche. Et je schématise, hein, mais bon, ouais, c'est, on était très loin du ROI, en tout cas du focus ROI. Et donc c'est la raison pour laquelle on a créé MyMedia, avec une promesse de ROI plus forte, avec et ça se traduit par une mesurabilité, une exigence de mesurabilité extrêmement importante. On a créé l'agence donc en 2005, comme je disais. On s'est développé, on va dire, assez classiquement comme une agence, en répondant à des appels d'offres. Et puis il y a eu le virage du e-commerce, les e-commerçants, beaucoup de pure players e-commerçants qui avaient saturé les leviers du marketing digital ont décidé de passer au offline, et notamment à la télévision, pour acquérir beaucoup plus de clients avec des coûts d'acquisition maîtrisés. Et nous avions cette expertise et nous avons pris ce virage là et nous sommes devenus leaders sur le sujet, puisque nous sommes leaders, archi-leaders en France du Direct Response TV. Donc 40% de tout ce qui est acheté par les pure players et les e-commerçants en télévision passe par MyMedia ou ROI, qui est la deuxième agence du groupe. Donc on a développé une expertise depuis maintenant plus de 10 ans, qui est assez unique sur le marché et qui explique quand même beaucoup notre croissance, parce qu'aujourd'hui, un pure player, une start-up, lorsqu'elle démarre et qu'elle veut accélérer, donc elle passe d'abord par Google, donc, et ensuite très souvent elle nous appelle pour pouvoir tester surtout le levier télévision, qui est extrêmement rentable et performant. C'est le paradoxe, hein, ça fait en discutant avec les fonds, avec les banques, ça fait 10 ans qu'on nous dit que la télé est morte, et pourtant la télé est pas du tout morte.
La preuve, on est là,
absolument.
Et d'ailleurs, ça se voit dans les chiffres, parce que je crois que pour le mondial, là, les investissements sont profite en premier, en tout cas à la télé d'ailleurs.
Alors il y a effectivement un arbitrage en faveur clairement du mois de juin, qui est le mois de la Coupe du Monde. Après, bon, quand on regarde plus dans le détail, il y a un arbitrage aussi qui est fait au sein même de la Coupe du Monde, qui favorise en fait les matchs de l'équipe de France. Donc,
c'est pas très étonnant.
C'est pas très étonnant, mais du coup ça pose quelques petits problèmes. Mais bon, c'est... Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un réarbitrage. Donc, beaucoup d'annonceurs ont stoppé leurs investissements en début d'année pour se concentrer justement, être présents sur la période de la Coupe du Monde.
Et vous publiez d'ailleurs un Search Dependence Index qui mesure la dépendance des annonceurs à Google, en quelque sorte. J'ai deux questions. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Et quel est justement ce niveau de dépendance?
Alors, le niveau de dépendance de Google des marques est extrêmement important, c'est pas un secret. Nous, nos concurrents sont, vous parliez des grands groupes publicitaires mondiaux, mais aujourd'hui Google, Facebook cherchent à désintermédier totalement le métier, et ils y arrivent parfaitement. Donc ils ont des systèmes extrêmement performants aujourd'hui, et ils vont de plus en plus loin dans le fait de remonter dans la chaîne de valeur. Donc on le voit avec la position zéro, le search vocal, c'est des enjeux énormes pour les marques. Donc on a beaucoup investi sur les problématiques de SEO, et on a créé cet indice qui permet de mesurer en fait la dépendance de certaines marques vis-à-vis de Google. Alors certaines marques sont extrêmement bien placées. Pourquoi ? Parce que justement elles investissent sur des médias traditionnels, donc elles se créent la notoriété, donc les gens cherchent la marque spontanément en tapant la marque. Et d'autres, malheureusement, dépendent extrêmement de Google, doivent acheter du trafic qui n'est pas en lien avec leur marque parce que leur marque est faiblement connue. Et donc ça, c'est une problématique qui est structurante et qu'on doit absolument adresser. Et donc, on a créé cet indice pour justement mettre le projecteur sur cette dépendance que tout le monde connaît. Mais il faut sortir de cette dépendance.
En faisant de la pub à la télé.
De la pub et aussi en adressant correctement sa problématique de référencement naturel. Donc 50% du trafic d'un site mature est organique. Donc avant de travailler les leviers payants, il faut travailler la structure de son site et bien comprendre comment Google, qui n'arrête pas de changer les règles du jeu, sans le dire, en permanence, des centaines de changements dans l'algorithme de Google par an qui sont pas forcément annoncés. Il faut impérativement travailler à bien référencer son site de manière naturelle, puisque naturelle veut dire gratuite, puisque ça améliore en plus tout l'écosystème de la stratégie d'acquisition.
Merci Anthony Raveau. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de MyMedia.
Votre rendez-vous avec Audience. Santé, prévoyance et prévention. Audience, la protection sociale créative au service de la communication et des médias. BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Avec Valérie Potin cette semaine.
Oui, Valérie, avec qui on va parler d'une initiative intéressante de Fnac Darty qui prend des engagements pour permettre aux clients d'optimiser la durée de l'usage de ce qu'ils achètent chez Fnac Darty.
Exactement, le groupe a annoncé cette semaine 4 engagements qui sont assez forts pour un distributeur. Il y a d'abord la publication d'un baromètre annuel du SAV qui va étudier les produits, qui va étudier leur fiabilité, la typologie des pannes et leur capacité à être réparée. Et à terme, qui va aussi proposer un classement des marques les plus durables. Ça, c'est la première chose. Il y a la publication dès cet été sur le site du Labo Fnac d'une ce qu'on appelle un indice de réparabilité qui sera dans un premier temps sur les ordinateurs portables et qui sera ensuite étendu à l'ensemble des produits d'ici 2020. Il y a la publication d'une base de données techniques de SAV pour accompagner les clients lors de réparation. Et puis il y a cet engagement de réparer les produits au-delà de la durée, au-delà de la durée de la garantie, sous réserve évidemment de pièces disponibles.
C'est courageux ou suicidaire de la part de Fnac Darty?
Mais ni l'un ni l'autre en fait, parce que le groupe, il sait depuis la création du Labo Fnac en 1972 qu'il n'est pas particulièrement risqué et qu'il est même vertueux de tester et de noter les produits qu'il vend. Donc on va dire que c'est plutôt responsable et malin, responsable parce que c'est en avance et en accord avec des exigences qui étaient inscrites, qui sont inscrites sur la feuille de route pour une économie circulaire qui a été présentée là au mois d'avril par le ministère de la Transition écologique et qui sera applicable d'ici l'horizon 2022. Et c'est aussi très malin parce que le groupe finalement se retrouve à être le premier à agir et à se positionner autour de cette feuille de route, et qu'on sait que dans ce secteur comme dans plein d'autres, il y a toujours une prime pour celui qui innove, sous réserve que son offre soit effectivement à la hauteur.
Ouais, c'est responsable, mais il y a quand même une petite arrière-pensée business.
Clairement. En même temps, il faut se rappeler que ça n'a rien de nouveau, cette démarche chez Darty, puisque dès la création de l'enseigne en 1957, il y avait ce choix d'intégrer donc un service après-vente qui avait déjà vocation à faire durer la durée de vie des produits pour générer une forme de confiance et de la préférence de marque auprès des clients et les inciter à revenir de manière un peu plus sereine à faire leurs achats dans les boutiques de l'enseigne. Donc à travers finalement, c'était ça d'ailleurs le premier contrat de confiance, c'était ça. Donc à travers ces nouveaux engagements, le groupe finalement redéfinit un nouveau contrat qui cette fois-ci est construit sur le consommer mieux mais le consommer moins. Ça pour le coup, c'est une vraie évolution, pour pas dire une révolution chez les distributeurs, en tout cas en France. C'est une tendance qu'on va se développer et pour le coup, c'est une très très bonne nouvelle.
Merci Valérie Potin.
Votre rendez-vous avec Audience. Santé, prévoyance et prévention. Audience, la protection sociale créative au service de la communication et des médias. BFM Business. Hebdo.com. Le Zoom.
Le Zoom du jour autour de la transformation digitale des entreprises avec Sandrine Catla. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice des études de l'Observatoire NetExplo, et David Leborgne, bonjour.
Bonjour.
Chief Digital Officer du groupe SNCF. Alors Sandrine Katla, vous organisiez récemment un grand événement avec les meilleures initiatives de transformation digitale des entreprises. On parle beaucoup, surtout sur cette antenne à BFM Business, de transformation digitale des entreprises. Moi, j'avais l'impression que c'était plus un sujet, que toutes les entreprises l'avaient intégré. C'est pas le cas?
Alors si, je pense que toutes les entreprises l'ont intégré, c'est évident. Simplement, je crois que pour elles, c'est toujours intéressant de se retrouver, issus de marchés différents, de secteurs différents, avec des stratégies de transformation digitale différentes, et de se livrer, de se raconter un peu, de partager ses expériences, parce que sur la transfo digitale, tout reste à faire malgré tout, et que donc c'est toujours bien de s'adresser aux autres pour savoir ce qu'ils traversent et quel chemin ils ont pris.
Alors, il y a des tendances, là, par exemple, que vous avez observées cette année?
Alors oui, on a capté cette année 70 projets qui sont issus des plus grandes entreprises françaises et qui s'adressent au territoire français. Des projets qui concernent les marchés, les clients, les consommateurs, mais qui concernent aussi les RH, donc leurs collaborateurs. Et sur ces 70 projets, je crois qu'il y a trois tendances qui se dessinent. La première, c'est qu'on a toujours des projets qui s'intéressent à aider l'utilisateur à décoder le monde, donc à comprendre dans quelle complexité il se trouve et qui lui donne les moyens d'accéder à une information et qui la lui simplifie pour qu'il fasse des bons choix, pour qu'il soit plus efficace. Hein. La volonté, c'est évidemment d'être bienveillant. Il reste toujours la question de l'influence. Hein. Quand on décode la réalité, c'est avec son propre regard. C'est une explication de texte. Donc, quel regard on pose sur cette réalité? Il y a une deuxième tendance qui est celle, et qui rejoint d'ailleurs cette aide au décodage, c'est celle de l'attention digitale, c'est-à-dire qu'on est là pour vous soutenir, pour vous aider, encore une fois, dans vos choix, dans vos prises de décision. Vous êtes dans les rayons d'un supermarché, vous êtes assisté de votre chatbot, ou alors vous êtes au volant de votre voiture et votre voiture intelligente sait que vous conduisez fatigué et que vous devez vous arrêter. Donc évidemment, là, on est dans de l'assistance, y compris aux gestes professionnels quand on s'intéresse aux collaborateurs, c'est-à-dire qu'on va aider le professionnel à faire mieux son geste, à délivrer mieux son geste. C'est une forme de surveillance et d'aide en même temps. C'est une forme de formation connectée aussi. Là aussi, il y a une question qui se pose. Hein, c'est cette attention digitale, en tout cas digitalisée. Il ne faut pas qu'elle aille jusqu'à l'exclusion de l'humain. Parce évidemment. Que quand on parle d'attention, voilà. Et puis la troisième tendance, c'est toujours un effort fait autour du lien social et donc de la mise en communauté et en réseau des gens, que ce soit des consommateurs ou encore une fois des collaborateurs. On voit que les entreprises, s'intéressent beaucoup à créer ce lien, à créer des communautés, à les animer, à les développer, pour faire se rencontrer des collaborateurs qui ne se croisent jamais dans les locaux, ou pour mettre en relation des clients et une offre.
Frédéric.
Alors, David Leborgne, la SNCF a été lauréat dans ce trophée avec un projet qui s'appelle TGV Max.
Tout à fait.
Et alors, TGV Max, c'est
TGV
quoi?
Max, c'est une offre de TGV illimitée pour les jeunes entre 16 et 27 ans qui leur permettent aujourd'hui de pouvoir se promener sur tout le territoire.
D'accord.
Avec une seule offre.
Une seule offre.
Et en quoi c'est une innovation digitale?
Voilà.
C'est une innovation digitale dans le sens où dans la co-construction qui a été faite, c'est le rassemblement, on parle beaucoup, si je rebondis sur ce que dit Sandrine, sur la symétrie des attentions, beaucoup d'intelligence collective, de co-construction ensemble entre les équipes, entre les clients qui réclamaient d'avoir une offre où il y avait aujourd'hui à l'heure de l'intermodalité, le train est challengé, de travailler avec les clients, les collaborateurs pour définir une offre qui correspond vraiment aux besoins du marché. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a regagné énormément de la jeunesse qui voyage dans le train.
Dans le train. Notamment en reprenant... Alors j'ai vu que l'un des objectifs de la SNCF, c'était de s'attaquer à l'autosolisme.
Oui.
Ah, ça, c'est un mot, j'ai été regardé quand même sur Wikipédia ce que ça voulait dire, parce que je connaissais pas l'autosolisme. C'est...
L'usage individuel de la voiture personnelle.
De la voiture, voilà.
Qui correspond aujourd'hui, c'est notre concurrent premier, c'est 85% de part de marché. Bon, ça apporte une... de l'autonomie, mais c'est quand même responsable aujourd'hui de la thrombose des villes, c'est responsable d'émissions de particules fines en zone dense. Et donc notre réponse pour pallier à ce problème, c'est d'avoir de proposer cette mobilité partagée et qui est en plus faible en émissions de CO2, le train et toutes les mobilités, les intermodalités que nous proposons aujourd'hui dans une offre de mobilité as a service contribuent à lutter contre l'autosolisme, surtout dans les villes où c'est vraiment responsable de la thrombose.
D'accord. Sandrine Catla, est-ce que la transformation digitale touche aussi l'industrie? Dans quelle mesure est-ce que ça peut améliorer les outils industriels?
Alors bien sûr, la transformation digitale, ça touche absolument tout ce qui concerne une entreprise, une offre de service, un produit et évidemment les systèmes de production, de maintenance. On parle beaucoup de maintenance prédictive, par exemple, en utilisant des objets connectés qui vont capter de l'information en temps réel et permettre de prédire les pannes et d'intervenir avant même que ces pannes n'existent. Donc ça, évidemment, dans l'industrie, c'est phénoménal.
C'est quelque chose que vous utilisez, par exemple, à SNCF?
Tout à fait. Je vous rappelle que la SNCF, c'est 30 000 km de voies, c'est 30 000 bâtiments, c'est 15 000 trains par jour. Donc, nous sommes en train d'utiliser l'IoT industriel pour aller poser des capteurs, mélanger au big data pour demain être... Bon, aujourd'hui, on est encore dans une maintenance curative pour passer demain dans une maintenance prédictive grâce à toutes ces technologies qui sont à notre disposition.
Merci beaucoup, David Leborn. Je rappelle que vous êtes le Chief Digital Officer du groupe SNCF et Sandrine Catla, directrice des études de l'Observatoire NetExplo.
BFM Business, Hebdocom, comme un chef.
Aujourd'hui, nous sommes avec Nathalie Blanc. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes designeuse et vous êtes créatrice de la marque Nathalie Blanc Paris, marque de lunettes que vous avez lancée il y a 3 ans. Comment est-ce que vous avez communiqué au départ pour le lancement de cette marque? Quelles sont les démarches que vous avez dû entreprendre?
Alors, au tout début, j'avais pas de moyens, donc c'était un peu à la débrouille. Donc,
oui, j'imagine.
J'ai été au Festival de Cannes, j'ai fourni mes lunettes aux actrices, etc. En fait, la collection a énormément plu. Elles se sont rendues compte que c'était des produits luxe, très beaux, made in France, qu'elles adoraient porter. Ce qui fait qu'elles ont continué à les porter. Et puis, j'ai eu beaucoup, beaucoup de visibilité en presse, sur les réseaux sociaux, etc. J'ai commencé à m'en servir. La presse m'a suivie. Et puis ensuite, il a fallu que je passe à l'étape supérieure avec les réseaux sociaux. Et voilà, aujourd'hui, qui est mon moyen de communication.
En fait, à vous entendre, on a l'impression que c'était hyper facile. Vous êtes présentée à Cannes, vous avez distribué vos lunettes et hop. Non, j'imagine que c'était un peu plus compliqué en vrai.
J'ai eu la chance qu'elles plaisent beaucoup. Techniquement, elles sont formidables. C'est un produit très haut de gamme avec des verres solaires de qualité, branchés, parisiens, fabrication française. Et c'est vrai que j'ai eu Carla Bruni qui a commencé à les porter, Mélanie Thierry, Laurent Delahousse, Alice Taglioni. Ouais. Donc ça m'a commencé à me faire un réseau de gens connus qui portaient mes lunettes et qui aimaient le produit, qui donnaient une jolie image à la collection en fait.
Vous êtes sur un marché effectivement haut de gamme, on peut le dire, marché du luxe. Comment est-ce que vous vous intégrez dans ce secteur qui est quand même, je pense, assez concurrentiel aujourd'hui?
C'est très compliqué, la lunette aujourd'hui, mais je pense que plus le temps va passer, plus ça va être simple, puisque de toute façon, ce sera maintenant un achat plaisir. On décidera de s'acheter des jolies lunettes ou on décidera de rester dans le forfait de la mutuelle. J'ai fait de mon produit, c'est vrai que pour la communication, c'est compliqué, parce qu'il a fallu faire de ce produit un produit avec une image luxe, branché haut de gamme, mais c'est aussi un produit technique, paramédical, et avec ce côté des mutuelles, de l'optique. Donc on a développé deux réseaux de communication. Un avec Instagram, j'ai créé mon Instagram il y a un an, on a plus de 7000 abonnés aujourd'hui. Ouais. Instagram, c'est 75 millions de personnes qui regardent tous les jours. On peut pas être une marque luxe aujourd'hui et passer
sans
à côté.
Sur Instagram,
c'est impossible. Voilà, donc on a un très joli feed, produit une image très jolie, très luxe, avec des photos magnifiques, de belle qualité. On communique aussi beaucoup avec la presse écrite. Mm-hmm. J'ai toutes les semaines une parution dans la presse, du rédactionnel, des jolis papiers. C'est un produit qui, je suis très suivie par le Elle, par le Vogue,
féminins,
par le Marie Claire. Voilà. Et puis les gens sont très attachés au Made in France, aux produits français. Voilà. Et surtout le côté technique, il a fallu aussi communiquer en mettant en avant ce qui fait la différence avec du low cost, c'est-à-dire un produit français. Aujourd'hui, la fabrication française reste la plus belle fabrication dans la lunette. Il n'y a pas plus jolie fabrication. Il faut défendre ces usines dans le Jura qui continuent à travailler merveilleusement. Et il faut donc communiquer dessus avec une traçabilité de produits. Et on a décidé, j'ai mis en place la garantie France Origine, qui est un label.
Absolument,
où
un
on
label.
Connaît la traçabilité du produit et qui est fondamental pour les opticiens. Parce qu'aujourd'hui, des Made in France assemblés en France mais pas fabriqués en France, c'est quand même la majorité. On est très, très peu à faire de A à Z le produit en France. Donc, faut le communiquer.
Et le faire savoir.
Et le faire savoir.
Merci beaucoup, Nathalie Blanc. Je rappelle que vous êtes designeuse et créatrice de la marque Nathalie Blanc Paris. Merci également à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com sur BFM Business. Ce sera un numéro spécial, Cannes.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.